VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h à Ouagadougou. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso s'ouvre aujourd'hui dans la capitale burkinabé avec 84 accusés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup. L'audience a lieu devant la cour de la chambre de jugement du tribunal militaire délocalisé pour la circonstance à la salle des banquets à Ouagadougou, un quartier huppé au sud de la capitale. Les accusés risquent tous de lourdes peines au terme de ce procès, censé durer plusieurs mois selon des sources judiciaires qui ont précisé que lecture de l'ordonnance de plus de 15 000 pages annoncera la couleur de ce procès marathon mis en perspective à Ouagadougou. Issa Napon.
Le match entre accusateurs et défenseurs du général Gilbert Diendéré et 83 autres accusés se joue depuis plusieurs jours dans les médias. Les organisations de défense des droits de l'homme attendent beaucoup de ce procès pour que les victimes se fassent entendre. Pour le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ce procès doit être rigoureux et transparent afin de marquer la fin de l'impunité.
Le MBDHP rappelle que cette résistance populaire a fait 14 personnes tuées, essentiellement par les balles d'éléments de l'ex-régime de sécurité présidentielle, ainsi que de nombreux blessés, dont certains marqués à vie.
Devant la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou, ce procès sera ouvert au public au palais des sports de la capitale. La justice et le droit sont les maîtres mots pour un procès qui ne doit oublier aucun des témoins pour un jugement équitable, estime Maître Prosper Farama, un des avocats de la partie civile.
Si des gens ont tué, qui a tué? Qui a donné l'ordre de tuer? Et si ces gens-là sont identifiés, ils doivent être sanctionnés. Ce n'est pas nous qui mettons la pression sur la justice, contrairement à ce que vous pouvez penser. Pour ce procès-là, nous ne faisons aucune chasse à quelque sorcier que ce soit. Les victimes ne veulent pas de vengeance. Elles demandent la justice. Et ce que nous demandons, c'est que tout le monde, quelle que soit la personne, au degré où elle se trouve, qui soit impliquée dans cette affaire, soit entendue. Car à l'issue de ce procès, on n'a pas l'impression qu'il y ait de non-dits, qu'il y ait des choses cachées. Si des gens disent que certaines personnes sont impliquées, il faut les entendre. Les gens peuvent se réconcilier, c'est leur droit, mais ceux qui ont commis des crimes sont condamnés.
Les partisans des accusés, à coup de conférence de presse, crient à un procès politique. C'est le cas notamment du président de la nouvelle alliance du Faso Nafa, la formation politique du général Bassolé, également inculpé dans le dossier. Il y a manifestement ingérence du pouvoir, martèle le professeur Mamoudou Diko.
Au niveau de la Nafa, nous avons un souci pour notre leader, son individu Bassolé, parce que tout simplement, il y a eu d'abord une question de justice qui n'a pas été bien exécutée à notre avis, parce que le juge lui avait donné une liberté provisoire et tout le monde a suivi ce qui s'en est suivi. Les gens ont refusé d'appliquer cette décision et a été embrigadé par le pouvoir inculpé. Bon, c'est un arrêté que l'autre ministre a pris à posteriori, l'empêchant même de juger de sa décision judiciaire. Nous sommes sceptiques par rapport à l'indépendance totale au niveau de la justice militaire. Nous devons croire que parmi eux, il y a des juges quand même qui vont privilégier l'intérêt supérieur de la nation.
83 témoins passés donc à la barre pour éclairer l'opinion sur ce jour de septembre 2015 où le général Gilbert Diendéré prit brièvement les commandes du pays après un putsch soutenu par le régime de sécurité présidentielle et selon certaines sources par le général Djibril Bassolé et de nombreuses autres personnalités. Les accusés sont poursuivis notamment pour atteinte à la sûreté de l'État, trahison, meurtre et de coups et blessures volontaires. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Botswana a imputé hier au président congolais Joseph Kabila la crise humanitaire et sécuritaire qui frappe la République démocratique du Congo. Des critiques rares de la part d'un gouvernement africain. Les puissances occidentales ont condamné à de nombreuses reprises l'attitude de Joseph Kabila qui a refusé de quitter la présidence à la fin de son mandat en décembre 2016 et n'a pas respecté sa promesse d'organiser des élections. Mais les pays africains n'avaient jusque-là pas critiqué directement le dirigeant. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Che Okitundu, n'a pas souhaité faire de commentaires d'après l'agence Reuters. Et sur place, en RDC, un policier a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué un manifestant anti-Kabila à Mbandaka, une ville du nord-ouest du pays, dans un procès en flagrance. L'agent de police a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir tiré à balles réelles et à bout portant sur Eric Boloko le dimanche 25 février à Mbandaka, a annoncé à l'AFP un responsable du greffe du tribunal militaire de la garnison de Mbandaka. Nouveau départ pour le gouvernement sud-africain, le président Cyril Ramaphosa, qui a succédé à Jacob Zuma, a remanié hier son gouvernement. On note des changements, également des retours importants pour assurer pour rassurer les investisseurs, mais aussi une volonté de maintenir l'unité du parti au pouvoir, l'ANC. De Johannesburg, la correspondance de Patricia Ouan.
Cyril Ramaphosa a procédé à des changements majeurs dans son cabinet ministériel, signalant une prise de distance par rapport aux récentes exclusions et nominations faites par l'ancien président Jacob Zuma. On retiendra avant tout le retour de Nhlanhla Nene aux finances. En décembre 2015, le président Zuma s'était brutalement séparé du ministre et l'avait remplacé par un député inexpérimenté, un changement qui avait fait chuter le rand, la devise sud-africaine. Autre retour important, celui de Pravin Gordhan, un ardent défenseur de la lutte anticorruption, lui aussi limogé par Jacob Zuma. Il se voit confier le portefeuille des entreprises publiques, un ministère sensible suite à la mauvaise gestion de ces entreprises. Cependant, le nouveau cabinet compte encore beaucoup d'anciens alliés de Jacob Zuma, y compris le nouveau vice-président David Mabuza, numéro 2 de l'ANC depuis la conférence du parti en décembre. Cyril Ramaphosa a expliqué vouloir créer un équilibre entre la continuité, la stabilité et la nécessité de renouveau et de reprise économique. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
En Guinée, un jeune homme a été tué et d'autres personnes blessées à la fin d'une journée ville morte organisée hier à Conakry par l'opposition qui a accusé la gendarmerie d'être responsable de ces violences. Trois semaines après des élections locales dont les résultats sont contestés et après deux semaines de grève des enseignants, le climat social s'est encore alourdi avec un appel à la grève générale lancé hier par le puissant syndicat UGTG. Washington, 6h06.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi une demande de l'administration Trump de trancher immédiatement sur DACA. Ce programme mis en place par Barack Obama protège d'une expulsion quelques 700 000 jeunes, les Dreamers, qui sont entrés clandestinement aux États-Unis. Claire Morin-Gibault.
À moins que le Congrès ne trouve rapidement un compromis, les Dreamers sont toujours dans l'incertitude. Le programme DACA, qui leur permet de travailler et d'étudier légalement, a été abrogé par le président Donald Trump, qui avait fixé le 5 mars comme date butoir. Un juge fédéral a suspendu cette décision. La Cour suprême a, elle, refusé de se saisir de ce dossier politiquement explosif, estimant qu'il appartenait à une cour d'appel de se prononcer d'abord. Réagissant à cette décision, la Maison-Blanche a réaffirmé que ce programme était illégal, souhaitant une décision rapide. Les démocrates ont salué la décision de la Cour suprême. Le programme DACA est au cœur d'un bras de fer entre le président républicain et les élus démocrates du Congrès. Le président Trump a proposé une solution pour les Dreamers en échange du financement du mur qu'il souhaite construire à la frontière avec le Mexique.
Les talibans afghans ont appelé les Américains à discuter directement avec leurs représentants au Qatar. L'appel des talibans intervient alors que la capitale afghane accueille demain mercredi la seconde conférence du processus de Kaboul qui réunit les représentants de 25 pays de la région dont l'Inde et le Pakistan accusés de soutenir les insurgés ainsi que les États-Unis et trois organisations internationales dont l'ONU. C'est la première fois depuis plus de deux ans que les insurgés montrent leur disposition à participer à des pourparlers pour mettre fin au conflit engagé depuis 2001 avec les États-Unis dans la foulée d'une série d'attentats meurtriers visant les civils à Kaboul à la fin du mois de janvier. La trêve humanitaire quotidienne de 5 heures annoncée par la Russie est entrée en vigueur aujourd'hui en Syrie, en particulier dans l'enclave rebelle assiégée de la Ghouta orientale, cible d'une violente campagne aérienne du régime ayant fait plus de 560 victimes civiles en 10 jours. Mardi matin, la situation a retrouvé un semblant de normalité. Des habitants enterrés dans des sous-sols quittant leur abri pour inspecter leur maison et s'approvisionner en nourriture, d'après l'AFP. Et puis le parquet sud-coréen a requis aujourd'hui 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de la présidente déchue Park Geun-hye à son procès pour corruption et abus de pouvoir. La destitution de Mme Park avait été confirmée en mars 2017 par la plus haute cour de justice du pays. Jean-Roger Billon, la prochaine session d'information, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.